Alors, on commence peut-être assez rapidement sur le thème de ce soir, et puis même si ce n'est pas un thème très rigolo, hein, interdit, peut-être qu'il y en a qui en font quelque chose de drôle, mais moi, pour ma part, je trouve ça assez dur et assez violent. Mais bon, voilà, on s'est fixé ce thème, et on va essayer de. Chacun va dire un peu ce qu'il a pensé du thème. Peut-être avant quand même tout ça, j'ai jeté un petit coup d'œil sur le blog. Alors, heureusement que nos amis américains sont toujours là, parce que à 68%, c'est eux qui se connectent. Donc c'est marrant. Bon, il y a quand même à peu près toujours 100 personnes par mois. Qui se connectent sur ce blog. Donc, depuis le début, il y a à peu près 4 000 personnes qui se sont connectées. Donc, il faut savoir que c'est quand même un lieu de diffusion de nos pensées. Et les gens sont quand même assez finalement intéressés par ce qu'on propose. Alors, sur l'interdit, moi, ça m'a vraiment pas inspiré. Mais voilà, l'interdit par rapport à la psychanalyse, c'est quand même avant tout, on reprend l'interdit de l'inceste comme étant une sorte de pierre angulaire comme ça, de la psychanalyse. Voilà, donc il y a sûrement beaucoup à en dire, mais je n'ai pas plus à en dire que ça. L'interdit, évidemment, du meurtre. Alors bon, Freud avait, dans son bouquin, Totem et Tabou, voilà, fait tout un bouquin là-dessus, mais je n'ai pas plus envie que ça de commenter. Si ce n'est que je pense que Israq reprendra de toute façon les interdits de base de toute façon c'est dedans. Donc c'est pas très original par rapport à la psychanalyse. Non, peut-être moi ce que ça m'a plus évoqué c'est finalement que la psychanalyse permettait aux gens qui venaient nous voir, de les aider à sortir de l'interdit qu'ils s'étaient dans lequel ils sont, que ce soit pour des raisons interdit familial, et que ce soit quelque chose finalement de conscient pour eux ou d'inconscient. Et le travail de la psychanalyse, ça va être finalement dans mon idée, en tout cas par rapport au thème, ça va être de sortir les gens de leur interdit conscient, évidemment dans un deuxième temps leur interdit inconscient, mais déjà de leur interdit conscient aussi, parce que souvent ils arrivent avec voilà, une histoire familiale où il y a interdit de dire, où il y a des non-dits, par exemple. Et puis, tous les interdits qu'il peut y avoir au niveau de la sexualité. Donc, cette dimension d'interdit, je pense qu'on la travaille et surtout, ça peut nous servir de guide, en quelque sorte, dans le travail psychologique et psychanalytique qu'on peut entreprendre. Donc, de ce point de vue-là, je trouvais effectivement que ce thème de l'interdit était intéressant. Et puis, évidemment, si on fait la différence entre conscient et inconscient, voilà, au début, sur les interdits conscients, les gens peuvent arriver avec finalement un certain état des lieux sur les difficultés qu'ils ont pu avoir jusqu'au moment où ils arrivent, c'est-à-dire dans leur éducation, suivant leur âge. Mais la psychanalyse va permettre, dans un deuxième temps, de voir les connexions inconscientes qu'il y a aussi dans ces interconnexions. Et c'est souvent vraiment intéressant, évidemment, de lever ça progressivement, par étapes. Et la découverte de l'inconscient permet ça. Alors, je ne rentre pas dans toutes les topiques freudiennes sur le surmoi, le moi, le ça. Je laisserai Axel si je peux en parler. Derrière ça, c'est quand même un peu les mêmes logiques, c'est-à-dire qu'il y a l'interdit de société, l'interdit familial, voire social, qui va finalement nous formater, et évidemment aussi les interdits inconscients derrière tout ça, qui eux aussi agissent. Voilà, bon, c'était juste une toute petite introduction, très simple. Je trouvais que quand même le thème de l'interdit est très violent, en fait, parce que voilà, c'était mon ressenti. Voilà, je vais donner la parole à chacun sur le thème. Axel, allez.
L'interdit, alors, pour compléter ce que tu dis sur l'interdit de l'inceste, il y a un autre interdit important qui est moins cité, mais qui est l'interdit du cannibalisme, l'interdit de l'anthropophagie, qui se retrouve d'une manière symbolique souvent chez les patients, non, ça se retrouve dans les relations mère-fille souvent, cette histoire d'anthropophagie où les mères veulent manger leurs filles et les garder pour elles. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, avant, ça se trouvait pas mal chez les filles qui restaient tout auprès de leur mère toute leur vie, à servir leur mère. Et ça se trouve souvent beaucoup, je trouve, aujourd'hui, chez des jeunes femmes qui travaillent beaucoup, qui sont dans les autorisations maternelles et aussi dans les interdits plus inconscients, là, de ne pas dépasser la mère, de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfant, de ne rien fonder, d'être uniquement fille et de ne pas devenir femme et éventuellement mère. Ça, pour moi, c'est lié aussi à une forme d'anthropophagie. Et puis, sur l'interdit, sur le mot interdit, si vous le disiez à la Lacan, on a interdit, donc dit entre. Et qui est le fondement de l'interdit, c'est-à-dire voilà, quelle loi, en somme, quel discours on va avoir entre nous, qu'est-ce qui va être autorisé entre nous, ce qui est dit entre deux personnes. Et chez les enfants, dans l'éducation, dans l'éducation, on a ça dans l'interdit, c'est autorisé inconsciemment, l'interdit allant avec l'autorisation. Et l'interdit qui est fondamental, il est violent, et il est violent pour l'enfant qui essaie toujours de ruser pour contourner l'interdit et de tenir l'interdit, pas non plus toujours évident en tant que parent, je trouve. Mais bon, après, quand les interdits sont bien emmagasiné, bien enregistré, ça permet la structure, parce qu'on voit aussi chez les patients qui sont complètement déstructurés, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de limite, tout est permis. Et si on met le pendant, si on met un pendant de l'interdit, ce serait pas forcément l'autorisation, mais peut-être la liberté. Et quand les patients sont bien guéris, ou en tout cas qui vont mieux, ils s'autorisent quelque chose, alors qu'avant, ils s'interdisent. Donc, ils peuvent devenir libres parce qu'ils s'autorisent, à être. Et ils n'ont plus besoin qu'on leur donne l'autorisation, la permission, qu'on leur retire un interdit pour aller vers l'autorisation. Ils s'autorisent d'eux-mêmes, comme le psychanalyste parfois aussi qui doit s'autoriser lui-même, se dire bon, ben, c'est bon, ça y est, on y est, ouais. Voilà.
C'est vrai pour rejoindre ce que dit Axel. Moi, l'interdit, ça m'a. Parce que l'interdit, finalement, il se retrouve un peu dans toutes les sphères. Que ce soit politique, morale, sociale, familiale, il est même très fondateur. C'est un truc de civilisation. Et en fait, si par exemple, on prend Bakounine, chez Bakounine, le sens de l'interdit, c'est finalement une restriction, c'est plus qu'une restriction, c'est finalement une entrave à la liberté, puisque cette liberté, elle est inaliénable, elle est sans lien, parce qu'il est. Et donc, moi, ce qui m'a, ça m'a fait penser, c'est finalement toute la problématique autour de l'interdit, puisque ça s'interdit aussi au désir. Est-ce que, au fond, braver les interdits, c'est construire sa liberté? Ou est-ce que, en revanche, l'interdit permet précisément d'affirmer sa liberté? Parce que la loi, la loi, c'est ensemble, puisque la loi permet et interdit en même temps. Donc, finalement, lorsque la loi, par exemple dans la sphère politique, la loi est le garant de notre liberté. Pour se construire soi-même, on a besoin de règles, on a besoin de. Et en même temps, l'interdit, braver les interdits, c'est aussi important puisque c'est l'expression même du désir. Donc, en réalité, ça m'a fait un peu penser à la problématique classique qu'on trouve en philo. Par exemple, chez Kant, d'un côté, dans Qu'est-ce que les Lumières, il dit qu'il faut affirmer sa faculté de penser, etc. Et puis en même temps, la loi, eh ben, l'autorité, finalement, elle est souveraine et elle n'est pas dite exécutable. Et si on prend la loi morale, eh ben, cette loi morale, on doit l'intérioriser et au fond, on doit placer la loi morale avant justement son désir, et c'est comme ça qu'on se construit, parce que c'est comme ça que l'homme affirme l'humanité en l'homme. Mais le moyen de sortir de cette problématique-là, c'est finalement la faculté de penser, puisque c'est comprendre au fond l'importance de la loi morale, et c'est comprendre que au fond cette loi morale va nous faire devenir un homme au sens plein du terme. Donc, finalement, le respect de la loi morale, c'est l'affirmation même de notre volonté et de notre liberté. Mais en même temps, est-ce que, justement, braver les interdits, est-ce qu'être à l'écoute de son propre désir, est-ce que, du coup, on ne va pas, comme vous dites, s'autoriser à, est-ce qu'en s'autorisant à, ce n'est pas à ce moment-là qu'on devient réellement soi-même? Donc, il y a une ambiguïté, en fait, j'ai trouvé sur le terme interdit, très lié à la problématique de la liberté.
Bien entendu. Non, mais quand tu parles de Bakounine, il partait du principe que la liberté, qui s'opposerait à l'interdit, elle était absolue, oui, et inaliénable à n'importe quelle injonction. Après, le travail de la philosophie, c'est comprendre les fondements de ces injonctions. C'est-à-dire Descartes, Spinoza, tout ça, sont sortis du religieux en essayant de trouver dans quelque chose qui n'était pas spirituel les fondements d'une organisation qui posait des interdits. L'impératif catégorique de Kant, c'est un principe général qui dit ne fais pas une action qui ne peut pas relever d'une loi universelle. Descartes, il dit ne fais pas quelque chose que ce que tu fais, pense-le, devient le sujet de ta pensée pour en faire aussi une loi de. Alors, cela dit, ceux qui bravent les interdits et qui réussissent, c'est des héros. De Gaulle, il s'est levé contre la loi dont tu parlais, il avait continué le combat contre les Allemands, etc. Et c'est devenu le héros de la France libre. Ce qui est surprenant, c'est pourquoi il y en a autant d'interdits. C'est-à-dire, tu prends la Bible, la Genèse, là, au début où ils étaient dans le paradis éternel, et puis, comme par hasard, c'est l'arbre de la connaissance, on lui dit, ça, tu ne touches pas de ce fruit-là. Bon, dans, comment ça s'appelle, le conte là, de Chaboté, le roi propose à Anne de toutes les pièces du château, sauf une. Pourquoi est-ce? Bon. Les enfants à qui je parlais me disaient que Artémis avait un amoureux qui s'appelait Actéon et il avait le droit de la voir, sauf quand elle prenait son bain. Et évidemment,
il avait envie de le faire.
Elle la regarde en train de prendre son bain et elle le fait manger par ses propres chiens. Donc, il y a d'où viennent ces interdits qui sont posés même comme des récits mythologiques.
De l'arbitraire.
Est-ce qu'on aurait besoin d'un interdit pour exister? Est-ce qu'on aurait besoin, les enfants, est-ce qu'ils ont besoin d'interdits pour comprendre
Est-ce que s'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de loi?
Justement, Brigitte, je voudrais rebondir sur ce que dit Joël, parce que j'étais parti du même principe en fait. L'interdit, finalement, ça a été le fondement de la civilisation, de l'histoire de l'homme, si on le prend sous l'angle du mythe de la Genèse, si on parle d'un mythe ou si on parle d'une réalité à laquelle on croit. Mais peu importe, dans les deux cas, en tout cas, c'est vrai que c'est parti de cette dualité entre l'offre totale du bien-être absolu de l'individu et finalement cette notion d'interdit qui attisait finalement le désir de la transgression, parce que pour pouvoir accéder à la connaissance totale, il fallait transgresser. Donc, c'est vrai que ce démarrage de la transgression permettait justement de dépasser cet interdit pour rentrer dans une construction de l'individu. Et je pense qu'effectivement, s'il n'y avait pas cet interdit, il n'y aurait pas la construction de l'homme en tant que tel que l'on est. Et donc, effectivement, le fondement de la loi qui te met la barrière entre ce qui est envisageable et ce qui est dépassé par rapport à l'homme. Un petit peu ce qu'on retrouve même dans cette idée de trouver l'ultra connaissance, mais par les propres moyens de l'homme et non pas par celui qu'on lui a donné. Et c'est vrai que ce désir de l'ultra connaissance, c'est ce qui forge l'individu, parce qu'on est, je pense que c'est les philosophes que vous êtes, je pense plus que moi qui peux le dire, mais le mouvement est lié au désir aussi. On n'avance pas si on n'est pas dans ce désir. Et par contre, ce désir, par définition, souligne un manque également. Donc, il y a une frustration et donc il y a toujours cette dualité de construction entre ce manque et ce désir de compenser la frustration du manque. Et dans un deuxième temps, en fait, on a deux, dans nos sociétés globales, je pense qu'on a deux façons d'évoquer cet interdit. Il y a les interdits d'ordre social et les interdits d'ordre moral, d'ordre éthique. Et dans un des cas, il y aura une réparation, une sanction quand on a dépassé l'interdit sur le plan de la société. Et dans l'autre, d'ordre moral, effectivement, quand on a dépassé, il y a cette notion de péché, cette notion de blasphème et cette notion de rédemption. Dans un cas, c'est de la réparation liée à la sanction et dans l'autre, c'est plutôt la rédemption. Et on balance entre ces deux éléments, il me semble.
Mais c'est pareil, l'interdit, comme dit Noël, pourquoi il y en a autant et sous quelles conditions il est légitime. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne trouve pas de légitimité à l'interdit, est-ce que l'interdit, au contraire, n'est pas très néfaste, quoi, d'une certaine manière? Est-ce que ce n'est pas, là, pour le coup, une entrave à sa réalisation? Dans une éducation, parfois, est-ce que l'interdit il est toujours si légitime dans les sociétés, même? Est-ce que l'interdit... c'est pour ça que je te parle de la loi en même temps. Et même là, on peut prendre un exemple. On nous impose, par exemple, le masque dans la rue. Je veux bien, mais c'est fondé sur quoi, cette histoire du masque dans la rue? C'est quoi? C'est un interdit maintenant d'enlever le masque ou l'obligation de porter le masque? C'est une décision politique? C'est une décision médicale? Si c'est une décision médicale, quelle est l'autorité qui est arrivée à ça? Comment elle est arrivée à ça? Donc, c'est pour ça que finalement, aussi, on brave aussi les interdits. L'interdit aussi, on a envie de le transgresser, enfin, on a envie de transgresser la loi et donc ces interdits à partir du moment où, finalement, pourquoi on va subir un passif dont on ne trouve pas nécessairement les légitimes. Il y a ça aussi. À partir du moment où c'est légitime et on reconnaît cette légitimité, alors effectivement, il faut bien des lois pour se construire, il faut bien des lois pour vivre ensemble, il faut bien. Sinon, on tombe dans une anarchie où on est complètement déconstruit. Mais je pense que l'acceptation de l'interdit, il est aussi sur cette légitimité-là. Qui fait que.
Mais la légitimité, c'est une notion variable aussi en fonction de l'époque, en fonction de la société. Il y a des choses qui sont acceptables à certaines époques. À 12 ans, à 13 ans, à 18 ans, à 25 ans, on fait évoluer les choses. Non, on est d'accord, c'est les sociétés, c'est ce que je te dis, c'est les sociétés, c'est finalement la notion de loi qui va définir la notion d'interdit. Alors, soit on prend la loi dans l'absolu sur le plan religieux, ou alors on prend les lois sociales telles qu'elles sont édictées en fonction de ce qu'on va décider de voter dans un parlement quelconque. Je veux dire, donc forcément, l'interdit, c'est quelque chose de fictif finalement, puisque c'est quelque chose qui existe en fonction de l'instant T, en fonction de l'époque, en fonction de l'esprit, de l'humeur, enfin de tout ce qui peut se passer à l'instant T en fait.
Et chacun met le sens qu'il veut à sa propre existence. Donc, l'interdit qui est tellement important pour l'âme, de quelqu'un qui est complètement athée, quelle que soit la religion, peu importe, cet interdit ne va plus être légitime. Donc, c'est ça que je veux dire. Il y a une espèce de. L'interdit, c'est pas un fond. Enfin, on tombe aux civilisations de chrétienne, effectivement, avec la génèse et tout, mais je dis que ça peut pas être complètement un fondement, parce que ça dépend de son rapport à l'interdit, si on le trouve légitime.
C'est pas pour rien d'ailleurs, je pense que les lois universelles, tu sais, alors si on prend les lois de Noé, entre guillemets, qui sont les lois universelles, elles reposent sur des fondements qui sont incontournables. C'est le lien social, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler. Donc ça, ce sont des interdits qui s'entendent. Le reste, finalement, ce sont des chimères qui évoluent, qui en fonction de l'époque, en fonction de l'instant. On ne parlera plus de l'interdit du masque une fois qu'il n'y aura plus de soucis de masque. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de très fictif, de. Oui, pour prendre cet exemple, mais on peut jouer sur plein d'autres éléments en fait.
Alors,
peut-être tourner parce que pour eux, c'est plus sympa de voir celui qui parle.
Est-ce que vous voyez Spike?
C'est bon là?
Ok. Alors. On va expliquer quel est le regard de la Torah donc, sur l'interdit. Est-ce que l'interdit, c'est une frustration, quelque chose qu'on t'a dit, voilà, c'est comme ça, écoute, point final, ou est-ce qu'il y a un sens profond à ça? Donc, ce qu'on va développer, on va reparler aussi de la reconnaissance du bien et du mal, et surtout, ce que je voudrais qu'on dégage de là, c'est qu'est-ce que Dieu il attend à travers ces règles-là, vers où on veut aller. Alors, en fait, pour bien comprendre l'idée d'interdiction, en fait, il faut revenir au mot en hébreu, qui est le mot qui veut dire interdit, c'est le mot assour. Assour, ça veut dire c'est interdit. Et le mot pour dire permettre, c'est le mot muta. Donc, on a assour, qui veut dire interdire. Et on a muta, qui veut dire permis. Le mot assour interdit, on le retrouve dans la prière, dans les prières du matin, dans la bénédiction du matin qu'on fait au lever, où on fait une série de bénédictions. Et une des bénédictions, c'est on remercie Dieu
qui est m'attire, qui délivre, assourime les prisonniers. Assourime les prisonniers, ça vient du mot assour. D'accord ? Donc pourquoi on dit qu'il délivre les prisonniers ? On dit ça le matin parce qu'on est considéré comme, quand on dort, comme en prison. Puisqu'on est comme ça, immobile, on ne peut pas se mouvoir comme dans la journée normalement. Et donc on est considéré comme en prison, le fait de pouvoir se lever et bouger, eh bien, c'est à la ressemblance de délivrer des prisonniers. Donc, le mot assourim, ça veut dire des prisonniers. Ça vient du mot assour, qui veut dire interdit. Et il y a un lien entre les deux, très fort. C'est que l'idée d'interdiction, c'est en réalité un emprisonnement. Qu'est-ce qui est emprisonné ? On sait que tout ce qui existe dans le monde, il y a dans chaque chose matérielle qui existe dans le monde, il y a une étincelle divine. Et cette étincelle divine, eh bien, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous dans notre rapport avec l'étincelle divine qui fait vivre la chose matérielle. Soit, eh bien, on peut apporter une élévation à cette étincelle divine, on peut l'élever, on peut la libérer quelque part de son enveloppe matérielle, la faire remonter chez Dieu. Donc, de lui apporter quelque chose de mieux, de plus haut. Soit il est impossible de le faire, et donc ça veut dire que l'étincelle divine, elle est emprisonnée à l'intérieur même de la matière. Donc, pour comprendre pourquoi il y a deux niveaux en matière dans la divinité, une divinité qu'on peut élever et une divinité qu'on ne peut pas, qui reste complètement inaccessible et emprisonnée. Parce qu'en fait, il y a deux sources. Il y a une certaine source d'étincelle divine qui s'appelle la Klipat Noga. Klipat Noga, c'est une force du mal, mais c'est une force du mal qu'on peut élever. On reparlera de l'art de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, c'est un mélange. Il y a un mélange de bien et de mal. Mais on peut apporter une élévation, on peut apporter un raffinement en l'utilisant. Et il y a une autre source du mal qui s'appelle en hébreu les Shalosh Klipot Atmeot. Les trois forces qui sont complètement impures. Et ces forces-là, eh bien, on ne peut pas leur apporter une élévation. Alors, on va prendre un exemple tout simple. La nourriture qui est cachère et la nourriture qui n'est pas cachère. La nourriture qui est cachère, ça veut dire qu'on peut la consommer. En la consommant, eh bien, on va élever l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur de nous. L'étincelle divine, elle vient d'une force qui est une force que je peux élever, que je peux raffiner. Ça vient de la force qu'on appelle Klipat Noga. Une nourriture qui n'est pas cachère, eh bien, qu'est-ce qui la fait vivre ? Eh bien, c'est cette force, ces trois forces complètement impures qu'on appelle Shalosh Klipot Atmeot, les trois forces qui sont complètement impures. Et même si j'étais en train de manger cet aliment qui n'est pas cachère et de l'utiliser, de prendre ces forces-là pour pouvoir faire mon service de Dieu, en aucun cas je pourrais apporter une élévation à ces étincelles-là qui se trouvent dans les aliments qui ne sont pas cachés. De cet exemple-là, on va comprendre déjà que l'idée d'interdit, elle est complètement liée avec l'idée de non-utilité, quelque chose qui n'est pas utile. Ça veut dire que le but du service de Dieu, c'est que toutes mes actions, elles aient un sens, elles apportent quelque chose, elle fasse leur effet. Si j'ai une action que je vais faire, mais qui va être stérile, qui ne va pas apporter son effet, comme par exemple quelqu'un qui mangerait par exemple une nourriture qui n'est pas cachère, et il aurait beau faire le meilleur service de Dieu qu'il soit avec la force que lui confère cette nourriture qui n'est pas cachère, il n'a pas la force d'élever ces étincelles divines qui se trouvent dans la nourriture pas cachère. Donc ça veut dire que, eh bien, donc finalement, eh ben, l'action de manger à ce moment-là, elle n'aura pas apporté son utilité. Parce qu'en fait, dans la Torah, on sait très bien que tout ce qu'on fait, eh bien, ça a un sens dans le service de Dieu. Même manger, eh bien, c'est pour prendre des forces, certes pour travailler, étudier, prier, faire son service de Dieu, mais à part ça, l'action même de manger, eh bien, elle-même, elle élève la nourriture qu'on fait. C'est valable pour le repas, c'est valable pour le travail, dans le challenge, dans
dans chacun ce qu'il fait dans son métier. Ce n'est pas simplement que le métier, c'est une source de revenus avec lequel on va servir Dieu. Ce n'est pas simplement ça. C'est que le travail en lui-même est un service de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on va travailler, on est amené à travailler dans un bureau, dans un endroit, et on est amené à toucher des objets, à avoir un environnement et tout. Et bien, le fait qu'on travaille honnêtement et qu'on le fait comme la Torah le demande, en faisant toutes les règles de commerce, d'honnêteté et tout ce qu'on va faire, et bien, à ce moment-là, et bien, ça élève l'endroit, ça élève l'environnement qui se trouve autour de nous. Donc, ça veut dire, là, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que l'idée d'interdit, c'est une idée que tu vas faire quelque chose qui ne va rien apporter. Ce n'est pas interdire pour t'embêter. J'ai envie de te dire, voilà, ça, tu ne pourras pas faire, ça, tu ne pourras pas faire parce que je veux te cadrer, c'est moi qui veux m'imposer. On va dire que Dieu s'impose et il dit, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il ne sera pas autrement, il n'y a pas de raison, c'est comme ça. Non, en fait, s'il y a certains interdits, c'est parce qu'en fait, ce que tu vas faire là va à l'encontre du projet de Dieu. Ça ne va pas ça ne va pas apporter son utilité. Très bien. Sur cette base d'explication, déjà, on peut comprendre qu'un interdit n'est pas forcément un interdit absolu. Pour donner un exemple, on parle d'un, quand Machiav va venir, on parle d'un poisson énorme qui s'appelle le Léviathan. Un énorme poisson qu'au début de la création, ils étaient mâles et femelles. Dieu a dû tuer la femelle pour pas qu'il se reproduise, sinon ils auraient détruit le monde. Et donc, un poisson qui fait des centaines de kilomètres de long et qui se cacherait sous les mers. Lorsque Machiav va venir, et à ce moment-là, il y aura un grand spectacle entre ce gros poisson qui va surgir de mer, ce Léviathan, contre un énorme taureau. Et à la fin, les deux vont mourir dans ce spectacle. Et on dit que ceux qui se sont qui n'ont jamais vu des combats d'animaux et qui se sont préservés, parce que ce n'est pas dans l'esprit de la Torah de voir des combats d'animaux et de faire souffrir les animaux, ils ont fait attention à cette injonction de ne pas participer à des combats d'animaux, et ben, eux, ils verront le plus beau combat, le plus long combat d'animaux entre ce grand poisson et ce grand taureau. Et à la fin, les deux vont mourir et on va manger de ce poisson. Le problème, c'est que on va manger de ce poisson et on va manger aussi du taureau. Mais le problème, c'est que, vous savez, pour pouvoir manger d'un animal, il faut qu'il soit tué rituellement avec un vrai couteau avec lequel on fait ce qu'on appelle la shrita. C'est un couteau rituel qui va être entièrement lisse. Pour pas faire souffrir l'animal. Et donc, celui qui fait la shrita ne doit pas appuyer sur le cou de l'animal, simplement passer le couteau sur le cou. S'il y a la moindre, il doit vérifier avec son ongle que son couteau il est extrêmement lisse. Si jamais il y a la moindre fissure sur le couteau, c'est pas caché. Hein. Par contre, dans l'histoire du Léviathan qui va tuer le grand taureau, eh bien, comment le grand taureau va se faire tuer? C'est par la queue du Léviathan. Mais la queue du Léviathan, c'est pas un couteau de chair. Elle est complètement ondulée. Elle n'a pas du tout le statut d'un couteau de chair. Comment c'est possible que l'animal il a été chair? Alors, a priori, on est face à un interdit. Comment ça se fait que la chose sera permise? Alors, lorsque Machiav va venir, tout le monde entier il va prendre une élévation. Une élévation sans aucune commune mesure. Jusqu'à présent, lorsqu'on tue un animal, le couteau devait être lisse. L'idée d'être lisse, c'est toujours créer un lien. Donc, certes, on élève l'animal à un niveau plus haut, il est toujours attaché à son niveau, c'est toujours un animal, il est toujours attaché au niveau dans lequel il était avant, comme quelque chose de lisse, comme une ligne où il y a un point de départ, il y a un point de fin. Mais il y a toujours un lien, même si on a évolué, il y a toujours un lien avec le niveau précédent. Alors que dans quelque chose d'ondulé, alors que dans des dents de scie avec la queue du poisson, ça monte sur en réalité une déconnexion complète entre le niveau précédent et le niveau dans lequel on va arriver. Et donc comme le monde entier il va monter avec un niveau qui n'a plus rien à voir avec le monde tel qu'il était avant, et bien même les animaux, certains animaux, et bien vont avoir cette élévation-là, et même s'ils vont être tuer, pas avec un couteau cachère comme ça peut faire, ils seront quand même cachères. Il y a ici également l'exemple du cochon. Il sera cachère aussi quand la chair y aura. Soit parce qu'il ruminera, soit parce que sa nature va changer et qu'il ruminera, soit que lui-même il aura cette élévation-là et que maintenant il sera apte à être mangé et donc on pourra l'élever. Donc pour bien comprendre que cette idée d'interdit, ce n'est pas quelque chose qui est absolu. C'est-à-dire que lorsque la chose, elle n'est pas nécessaire, on va dire, je ne le fais pas. Lorsque la chose, elle est nécessaire, alors au contraire, fais-le au contraire parce que ça va t'apporter quelque chose. Donc ça, c'est une notion de base. Et donc d'ailleurs, pour finir ce petit sujet, la permission, c'est muta, c'est permis. Eh bien, ça vient du mot matir, qui veut dire délivrer. Lorsque quelque chose, elle est permise, eh bien, tu peux délivrer, tu peux élever l'étincelle divine qui se trouve dans la matière et la ramener vers Dieu et en même temps en profiter au passage de cette étincelle divine que tu as profité. Elle va t'apporter quelque chose dans le service de Dieu. Très bien. Alors maintenant, je vais revenir au deuxième point sur l'art de la connaissance du bien et du mal. Alors, en effet, l'art de la connaissance du bien et du mal, c'était la première faute. L'ordre de Dieu, c'était « il est interdit de le manger ». Et le premier homme, Adam, il n'a pas dit ça à sa femme. Il a dit, c'est interdit pour toi de le toucher. Il a rajouté quelque chose en plus. Donc, il a rajouté un interdit qui n'était pas dit par Dieu. Vous avez le droit de toucher l'arbre. La seule interdiction, c'était de le manger. D'ailleurs, quand le serpent a compris, il a vu en ça une faille. C'est en ça qu'il a poussé Rava, donc Ève, sur l'arbre. Et elle dit, t'as vu, il ne s'est rien passé. T'as touché l'arbre et t'as rien eu. Donc, si tu vois bien que t'as bravé l'interdit, il ne s'est rien passé, il n'y a rien de mal qui s'est passé, tu peux aussi le manger. Donc, on voit que le rajout d'une interdiction supplémentaire, finalement, ça a amené la vraie interdiction qui a été prononcée et finalement la mort qui est rentrée dans le monde. Tout le monde devait avoir une vie éternelle et le bien et le mal qui se mélangent comme ça dans le monde. Alors c'est très étonnant parce qu'en général dans la Torah, c'est bien de rajouter une interdiction. C'est-à-dire que lorsqu'on veut se protéger, c'est comme quand il y a un feu, tu veux te protéger d'un feu, c'est bien de mettre des barrières autour. Tu sais que c'est dangereux, alors tu vas mettre des barrières. Et les sages d'ailleurs ont fait tout un système dans la Torah de rajouter des interdictions pour éviter de transgresser l'interdiction grave de la Torah. Je vous donne un exemple tout simple. Par exemple, le Shabbat n'a pas le droit de chevaucher un cheval. Pourquoi ? Chevaucher un cheval, ce n'est pas du tout dans les 39 travaux interdits du Shabbat. Il n'y a aucune, a priori, selon la Torah, il n'y a aucune interdiction d'aller se balader en cheval pendant le Shabbat. Aucune interdiction. Mais les sages se sont sentis comme un homme serait peut-être tenté de casser une branche et pour frapper le cheval pour qu'il avance plus vite. Et en l'occurrence, couper une branche, c'est l'interdiction de la Torah. On n'a pas le droit de couper un végétal pendant le cheval. Donc, de peur d'en arriver là, eh bien, ils ont préféré interdire de chevaucher un cheval. Et donc, ça se pratique dans la Torah de rajouter des interdictions pour protéger. Comment ça se fait ici que dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça a amené finalement une catastrophe? Parce que la réponse est toute simple, et ça va relier ce qu'on avait dit auparavant par rapport à l'idée d'interdit. Lorsque le premier homme et la première femme, ils ont eu l'interdiction de ne pas manger l'arbre, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient dans le Gan Eden, dans le paradis. Ils étaient dans un endroit qui était déjà raffiné, dans un endroit où il n'y avait pas de mal. Donc c'était dans un endroit où il y avait un grand dévoilement de Dieu, où il n'était pas nécessaire, il n'y avait aucune utilité à rajouter un interdit supplémentaire à ce qui était déjà interdit. C'est-à-dire l'interdit que le premier homme a rajouté en disant à sa femme « tu touches pas de l'arbre », c'était un interdit qui n'avait aucune utilité dans la situation dans laquelle il se trouvait. Dans la situation du Gan Eden, c'était un endroit tellement haut spirituellement, tellement élevé, que rajouter un interdit n'avait pas d'utilité. Comme ça n'avait pas d'utilité, alors bon, c'était une erreur d'avoir rajouté cet interdit, et ça a amené après à faire la faute. Et donc là, on voit le même sujet qu'on a dit avant. Quand quelque chose allait interdit, c'est pas qu'on veut t'embêter, c'est que quelque chose n'avait pas utile, simplement. C'est pas dans le projet. Pour finir, même que le thème, c'est l'interdiction, il faut comprendre que, bien sûr, que Dieu a donné la Torah pour donner un cadre, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, mais il faut savoir que notre attachement à Dieu n'est pas uniquement lié avec ce système de permission et d'interdiction. Il dépasse ce système-là. Tout n'est pas concentré dans la Torah, simplement dans ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. On sait très bien, alors pour donner un exemple dont on a déjà parlé, prenons l'exemple d'un père et un fils. Il y a le fils attaché au père, le père est attaché au fils. Il y a ce que le père attend du fils. Il lui donne des choses à faire, il demande de faire des choses, il lui interdit certaines choses. Si le fils il désobéit au père, est-ce qu'on peut dire que c'est plus son fils? Non. Est-ce que c'est plus son père? Non. Lui, ce sera toujours son fils, et le père, ça restera toujours son père. Ça veut dire qu'il y a un lien essentiel entre le père et le fils, entre les parents et les enfants, qui dépasse les attentes. Bien sûr que le père va être peiné, il aurait bien aimé que son enfant suive ses instructions, mais il y aura toujours ce lien qui ne pourra jamais s'arrêter, le lien entre les enfants et les parents, et qui dépasse les instructions qu'on peut lui demander, qui dépasse les permissions et les interdictions. Et ce lien, il est éternel. Il ne pourra jamais s'arrêter, quel que soit le comportement du fils. Avec ça, on comprend pourquoi à Rosh Hashanah, on mange la pomme trempée dans le miel. Pourquoi la pomme? On aurait dû prendre un fruit d'Israël dans les lois, justement, parce qu'on a le choix entre un fruit qui vient d'Israël et un fruit qui ne vient pas d'Israël, un fruit dont la terre d'Israël, dont on fait l'éloge de ces fruits-là, parce que c'est des fruits spécifiques à Israël, comme l'olive, la grenade, le raisin, etc. Eh bien, on aurait dû donner une priorité aux fruits d'Israël. Pourquoi on donne une priorité à une pomme? Parce que la pomme, elle représente l'attachement à Dieu qui dépasse même la Torah. Lorsque ça arrive le jour de Rosh Hashanah, et on trempe la pomme dans le miel, c'est comme si on est en train de dire à Dieu, lorsque le nouvel an arrive. Peut-être que toute l'année, on n'a pas été à la hauteur des attentes de ce que Dieu il attendait de nous. Mais on fait rappeler à Dieu que quoi qu'il arrive, nous, on est comme l'exemple qu'on a dit du Père et du Fils, on est toujours attachés. Nous, on est les enfants de Dieu, et donc Dieu, c'est notre Père. Et quoi qu'il arrive, on est attachés ensemble au-dessus même des permissions et des interdictions de la Torah. Et donc,
pourquoi une pomme?
Alors, ça correspond à... c'est dans la Kabbalah. C'est ce qu'on appelle un niveau qui s'appelle Chakal Tapurin. Chakal Tapurin, c'est un mot qu'on trouve quand on fait le kiddush le vendredi soir, on fait la bénédiction sur le vin. Et on exprime ce niveau-là par ce qu'on appelle le mot Tapurin. Tapurin, c'est à rapprocher du mot Tapouar. Tapouar, ça veut dire une pomme en hébreu. Et donc, ce fruit-là, il a cette signification-là. Et donc, quand on est en train de faire ça, on est en train de montrer à lui que quelque part notre attachement il est au-dessus de permission à l'interdiction. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'interdiction finalement, en résumé, c'est donc en réalité simplement une chose qui ne va pas amener, qui ne va pas aboutir à quelque chose qui va être dans le projet de Dieu. Et donc c'est pour ça que Dieu a cadré les choses et a choisi le chemin. Le chemin qui va apporter, qui va nous permettre de construire. Et toujours dans notre bataille contre le mal et dans notre bataille contre notre mauvais penchant, on doit toujours savoir, à tout moment de notre vie, qu'on a réussi, qu'on est surmonté, qu'on n'est pas surmonté l'interdiction, qu'on s'est maintenu, qu'on s'est contrôlé, ou qu'on n'a peut-être pas réussi à se contrôler. Il faut savoir que notre attachement à Dieu, il dépasse tout ça. C'est ce qu'on retrouve dans la pomme, donc à Rosh Hashanah.
Bon, merci. Alors, Léa, Chantal.
Par rapport à l'interdit et tout ce que vous avez dit, on peut dire que c'est à la fois un outil d'élévation et d'asservissement. Donc, ça peut être considéré comme un outil d'élévation. avec tous les interdits de contrôle des pulsions, enfin, ce que vous avez dit au début. Et aussi, dans la mesure où, comme l'a dit Yitzhak, il faut qu'il y ait du sens derrière cet interdit. Et si c'est un interdit sans sens et sans mesure, ça peut devenir à ce moment-là un outil d'asservissement. Donc, c'est un asservissement qui peut nous être imposé, ou ça peut être aussi un asservissement qu'on s'impose soi-même, d'où l'utilité, comme tu disais, d'aller voir le psy pour pouvoir transgresser cet interdit. Et aussi, dans l'exposé d'Israël, à un moment, j'ai l'impression qu'il a opposé la spiritualité et l'interdit. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui, finalement, pourrait nous permettre de dépasser cette notion d'interdit ? Et peut-être c'est davantage de spiritualité ou d'amour entre les êtres. Voilà. Et même dans l'éducation des enfants, il y a certaines éducations où il y a beaucoup d'interdits et d'autres où il n'y en a pas, où on laisse faire et puis on explique. Voilà. Moi, je suis plutôt adepte de la deuxième. Et on peut s'apercevoir que parfois, comme tu disais, Philippe, effectivement, l'interdit, c'est hyper violent et ça peut vraiment abîmer quelqu'un.
Mais voilà. Quand tu parles effectivement au niveau de l'éducation, c'est vrai qu'au départ, avant qu'il y ait de l'interdit, il y a des règles. Je veux dire, pour qu'il y ait un interdit, il faut qu'il y ait d'abord une règle, donc une loi. Je pense que c'est pour ça que le démarrage de la loi, c'est dès lors qu'il y a eu de l'interdit. C'est vrai que le fait après de moduler ces règles en fonction de, encore une fois, de la société, de ce qui bouge, on l'a vu dernièrement quand tu parles d'interdit, ce qui est typiquement après 68, c'était cette notion interdit d'interdire. Et on voit les dégâts finalement que ça fait parce que dès lors qu'il n'y a plus de cadre, effectivement, je crois que l'individu se délite un tout petit peu. Et donc, le problème, ce n'est pas un problème d'interdit ou d'acceptation de la chose, c'est de trouver ce savant équilibre qui a justement entre cette possibilité de pouvoir choisir dans une règle avec son libre arbitre, qui est une notion forte dans les textes et dans nos sociétés, de pouvoir choisir vers quoi on veut aller, non pas vers quoi on doit impérativement aller contre son gré, contre sa volonté. Ou alors on prend une notion de résistance, puisqu'on faisait allusion à De Gaulle tout à l'heure, et ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de résister toute sa vie, c'est d'adhérer de façon, dans un libre choix, dans des directions, mais autour d'un cadre qui est donné. Je pense que la règle, c'est vraiment c'est le cadre, et c'est ce qui fait la différenciation entre l'individu et la bestialité, je veux dire, le côté bestial, quand on n'a plus de possibilités de réflexion en âme et conscience, avec cette notion-là qu'on prête plus aux hommes qu'aux animaux. Les amis des animaux vont se fâcher avec moi, là.
Oui.
Chantal.
Alors, moi, j'ai beaucoup écouté tout ça. Alors, je partage tout au point de vue et tout. Et puis, j'essaye de… Je ne sais pas comment je vais le dire aujourd'hui. Alors… si on se base sur l'interdit et sur la Torah, par exemple les lois de la Torah, en fait non. En tant que thérapeute, on voit avec nos patients que c'est vrai, on aide les patients, je dirais moi plutôt, à remanier la conception de l'interdit de leur enfance. Parce que souvent, l'interdit, les parents ont du mal à poser l'interdit, à verbaliser la règle avec l'enfant, de façon à ce que, comme a dit Axel, l'interdit rigide devienne un interdit, c'est-à-dire un espace de parole, là où le parent va pouvoir se positionner, fixer une limite, et l'enfant entendre non pas l'interdit rigide, mais la valeur de la limite et l'intérêt que ça aura pour lui dans son grandissement. Et dans la Torah, en fait, on ressent un peu ça aussi, parce que dans les 10 commandements, on dit souvent les 10 commandements, c'est les 10 paroles. On dit les 10 commandements, mais dans l'absolu, évidemment, c'est les 10 commandements, la loi suprême, mais qui est-ce qui peut y arriver à appliquer les 10 commandements à la lettre ? C'est pratiquement, on le sait d'avance, impossible. Donc déjà, dans la loi s'inscrit déjà là une forme de transgression qui est due à notre imperfection d'humain, à notre difficulté à nous positionner par rapport à l'éducation qu'on a reçue et aux vraies valeurs peut-être qu'on retrouve quand on étudie les lois. Donc, voilà. Alors, et on disait tout à l'heure, oui, on s'autorise à, mais s'autoriser à quelque chose, c'est aussi apprendre à s'interdire aussi des choses.
Sens finalement dans la Torah parce que il a une utilité, parce qu'il est bon pour nous. Donc c'est pas cette espèce d'interdit autoritaire qui serait finalement pas du tout fondé. Et je pense que l'interdit là où il est très violent, c'est quand il est justement autoritaire où il est vidé de sens. L'interdit, c'est rigide quoi, et du coup on peut plus discuter quoi. Ça c'est terrible. Et là, c'est effectivement extrêmement violent parce que ça t'emprisonne, ça t'empêche de te construire finalement, et c'est là où tu vas t'enfermer. Mais au fond, l'interdit devient probablement nécessaire même pour sa propre construction, si on parle de soi, parce qu'il nous apporte quand même un référent, une structure, etc., à partir du moment où il fait sens.
Mais ouais, par rapport justement à l'interdit de l'inceste et du cannibalisme, finalement, ça reste sur soi, ça n'élève pas.
Oui, c'est ça. Exactement.
L'interdit, c'est pour s'élever. Ça sert à s'élever.
C'est le contraire d'une idée de construction d'un mariage, de fondement, ça serait la chance.
Ouais, c'est pas ouvert, c'est pas ouvert.
La psychanalyse, le travail sur soi permet vraiment justement de trouver finalement ses limites et donner du sens au cadre qu'on veut se donner. Oui. Et lâcher justement les interdits qui n'ont pas de sens. Ouais.
Construction finalement.
Ah oui, complètement. Oui.
C'est l'idée.
C'est lourd, hein, c'est un peu lourd, j'ai trouvé ça incroyable.
Il y a même un interdit tout bête qu'on peut s'interdire, c'est celui de dire non. Et ça, c'est hyper embêtant.
De dire non.
De ne pas pouvoir dire non, de s'interdire de dire non. Parce que tu peux avoir une éducation, comme disait Chantal, voilà. Et après, tu grandis, etc. Et tu peux plus dire non. Ça existe, hein. J'en ai rencontré. Mais bon.
Ce soir, regarde, ça a été dur de pas y aller et de dire non, on vient pas parce que.
Je veux dire. Encore le handicap que tu travailles avec cet interdit-là. Non, mais c'est pour dire qu'il y a des très gros interdits qu'on porte, et un tout simple, celui de s'autoriser à dire non, voilà, qui peut avoir des conséquences graves et rendre malheureux. Quoi.
Voilà. Elle préfère le oui. Il y a un verset qui dit Esh, le feu, tout cadre, la misbéar, il est débris. Brûlé sur l'autel des sacrifices, et l'eau tirbée, il ne faut pas l'éteindre, parce qu'il doit rester tout le temps, l'autel des sacrifices doit toujours être en fonction. on doit tout le temps brûler. Il y a une autre lecture profonde du verset qui dit que l'eau, le non, le fait de dire non à quelqu'un, tirbé, celui-là, tu dois l'éteindre. C'est-à-dire que tu dois éteindre le non. Parce que des fois, on nous demande quelque chose, et non, je ne peux pas, non, je suis fatigué, on verra plus tard, etc. Il faut être plus facile dans le oui et dans le côté positif. Et des fois, on a tendance à sortir le non comme ça, sans avoir peut-être vu que peut-être on peut le faire. Donc, c'est vrai que la Torah, elle penche plutôt sur le oui que sur le non.
Mais ça, c'est dans un monde idéal, c'est-à-dire que chacun se met au même niveau et qu'il n'y a pas manipulation de l'un par rapport à l'autre qui prend l'ascendant et qui soutire le oui ou le non à l'autre, ce qui n'est pas le cas de ce que dit Léa, justement. Il y a un rapport de force dans la façon de présenter. Ne pas savoir dire non, c'est ne pas dire non par rapport à quelqu'un. Donc et ça crée une hiérarchie, justement, sur le plan des individus, sur le plan de la relation à l'autre.
Justement, on ne peut pas dire non. Enfin, la possibilité de dire non pour l'enfant, ça se joue donc vers genre 3 ans. Tu sais, l'enfant qui dit non, 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 il apprend à dire je, j-e. Mais s'il a face à lui des parents qui, justement, dans l'éducation, veulent éduquer leur enfant, alors à ce moment-là, il ne va pas pouvoir dire non comme il voudrait, il ne pourra pas dire je, il ne va pas exister. Mais dans une éducation, comme dit Yitzhak, où on veut élever un enfant, à ce moment-là, il y aura une possibilité à ce que l'enfant puisse exprimer le non, tout en arrivant après à une négociation. Donc, les éducations d'avant, c'était des éducations quand même un peu rigides où on éduquait un enfant. Or qu'aujourd'hui, on essaye de l'élever. Enfin, il me semble, je ne sais pas, peut-être.
Il négocie plus aujourd'hui, je pense.
Oui. Il y a plus de négociations aujourd'hui qu'avant. C'était, fallait élever l'enfant, quoi. Hein.
Je suis même pas sûr qu'aujourd'hui on soit plus dans une négociation. On est plutôt dans un monde qui devient de plus en plus binaire. Je veux dire, c'est justement, on est de plus en plus binaire dans l'acceptation, le refus, le fait de zapper d'un truc à l'autre. Et justement, ça.
Oui, mais on est beaucoup plus à l'écoute de l'enfant à notre période-là qu'il y a une cinquantaine d'années. Hein. Quand même, hein, l'enfant, on ne l'écoutait pas des masses. Hein. Ça a commencé à l'écran avec Madame Dolto, un peu avant, encore un peu avant. Hein. C'est pas si vieux que ça. Hein. Il fallait éduquer un enfant. D'ailleurs, tu vois, au Moyen-Âge, je me rappelle quand j'ai fait mes études à la fac, il y avait des tableaux d'enfants qu'on suspendait au-dessus de la cheminée, comme ça. Ils avaient des visages d'adultes. Ils étaient peints avec des visages d'adultes. C'est-à-dire, la conception de l'enfant, elle n'est pas si vieille que ça, quoi. Oui. Donc, il fallait éduquer l'enfant. On se préoccupait pas de ce qu'il avait envie, de ce qu'il n'avait pas envie, de son désir ou pas son désir. Fallait l'éduquer, quoi.
Ça, ils n'avaient pas le droit de parler, hein. À table, ils n'avaient pas le droit de parler.
Ouais. Bah oui, hein. Et donc, ça revient à ce que tu disais, on ne peut pas dire non. Ah bah non, on ne peut pas dire non, mais on ne peut pas dire oui, on ne peut rien dire. Parce que quand on ne peut pas dire non, on ne peut pas dire oui non plus, ou alors on dit oui, même quand on n'en a pas envie. Ah bah oui.
Je pensais à la vie sexuelle des madames dans les services de psychiatrie. De temps en temps, il y avait un chef de service un peu pervers qui rappelait cette loi, enfin, qui existe dans les services de psychiatrie où les rapports sexuels entre malades sont interdits. Il suffisait qu'il rappelle ça pour que les malades soient déchaînés. On n'est plus la nuit en face. Voilà. C'est pas ça déchaînait les. Voilà.
Ouais.
Il suffisait de rappeler cette loi. Pareil pour les soignants. Il ne
faut pas trop interdire pour que ça se calme.
Oui, voilà. C'est là où c'est pas trop interdire. Sinon.
Bah, c'est sûr qu'un enfant, si tu lui dis oui, il ne fera peut-être pas ce pourquoi il te tannerait si tu lui dis non. Hein. Ouais.
C'est un juste équilibre.
C'est ça, c'est ça. Ouais. Il faut interdire un peu pour susciter le désir et que ça pulse un peu.
et moi, je trouve qu'on parle beaucoup plus avec les enfants maintenant qu'on ne nous parlait nous, avant, dans notre éducation. Hein.
Mais on raisonne enfin, par rapport. Mais... Chantal, on raisonne par rapport à un certain milieu, mais globalement, je ne suis pas convaincu de ce que tu dis. Je ne suis pas convaincu que notre société, qui devient, où le langage devient de plus en plus réduit, justement, là, on prend cette notion de langage comme on voyait, si on reprend chez George Orwell, quand il dit qu'on réduit de plus en plus le langage, parce que réduire le langage étant l'expression d'une pensée, tu réduis de cette façon la pensée. Et donc, finalement, les échanges se font de moins en moins. Tu vois le niveau de société dans lequel on arrive, de violence. Ouais. Cette phase où tu as justement un espace d'échange. On raisonne beaucoup plus avec une forme de parisianisme et non pas dans un monde vrai, en fait. Dans le monde vrai tel qu'il est aujourd'hui, en tout cas.
Peut-être, ouais. C'est pas faux.
Les deux sont vrais, je pense. Je pense que les deux sont vrais. Il y a une violence sociale qui fait effectivement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de discussion, de possibilité de parole. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on retrouve le fait que les gars, ils cassent tout dans les rues. Et que ça montre bien l'impossibilité de parole. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai aussi qu'on donne plus la parole aux enfants.
Et c'est vrai aussi par rapport, je reviens à la Torah, et le seul moment où chez nous dans le judaïsme on peut parler, c'est le Shabbat, puisque le Shabbat, entre guillemets, tout le reste est interdit. On ne peut pas conduire, on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas allumer, on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut rien faire. Mais ce n'est pas un interdit du style on ne peut rien faire, c'est pour laisser la place à autre chose, à justement un espace de parole, une étude, un livre, à table, une communication entre parents-enfants. Il nous reste un peu ça, quoi.
C'est ce qui a permis le confinement.
Exactement, oui. Absolument. C'était deux mois de Shabbat. Si on peut dire, hein, mais bon, c'est autre chose quand même.
Oui, parce qu'il y avait Skype.
Il y a eu justement. Non, mais je ne dis pas que tout était rose. Hein,
mais on a eu le même sentiment, oui. On ne pouvait pas sortir, il fallait les attestations, on ne pouvait pas aller à moins de 300 mètres. Bon, ben, on était chez nous, hein, voilà.
Ouais, mais peut-être que la violence, on ne la voyait pas parce qu'elle n'était pas dehors, elle était dans le foyer.
Oui.
Ce qui prouve bien que la société respecte les gens.
Très.
À tous les niveaux, d'ailleurs.
Bon, c'est un beau thème.